Mademoiselle XCV, suite. Mademoiselle XCV m'occupait tout entier, malgré mon indifférence, et je ne voyais pas s'approcher sans trouble l'instant où elle ne pourrait plus cacher son état à sa famille. Je me repentais de lui avoir parlé de la ROF, car il y avait 3 jours qu'il n'en avait plus été question, et ce n'était pas à moi à remettre sur le tapis une affaire aussi délicate. Je croyais même d'avoir éveillé ses soupçons, et je redoutais que l'estime qu'elle avait conçue pour moi ne se fût changée en un sentiment beaucoup moins flatteur. J'aurais difficilement supporté ses mépris. Je me sentais humilié au point que je n'avais pas le courage d'aller la voir. Je ne sais pas si je m'y serais déterminé si elle ne m'avait pas prévenu. Elle m'écrivit un billet dans lequel elle me disait qu'elle n'avait point d'autre ami que moi, et elle ne me demandait d'autre marque d'amitié que celle de l'aller voir chaque jour, ne fût-ce qu'un seul instant. Je m'empressai de lui porter ma réponse. Je lui promis de ne pas la négliger, lui assurant que mon amitié était constante et que dans tous les cas, elle pouvait compter sur moi. Je m'étais flatté qu'elle me parlerait de l'air off, mais en vain. Je crus qu'après y avoir bien réfléchi, elle l'avait jugé ce qu'il était, une chimère, et je me disposais à ne plus compter sur cet expédient. « Voulez-vous, lui dis-je, que j'invite votre mère et toute la famille à dîner chez moi ?»« Cela me ferait grand plaisir, me répondit-elle. Ce serait une jouissance que je ne saurais avoir un peu plus tard. » Le dîner fut tout à la fois somptueux et délicat, car je n'avais rien épargné, ni pour la magnificence, ni pour le goût. Mademoiselle fut pendant tout le temps d'une gaieté ravissante. Les saillies, les bons mots, des anecdotes piquantes animèrent le repas, et sous tous les rapports, le plaisir fut le dieu de la fête. Nous ne nous séparâmes qu'à minuit, et avant de nous quitter, mademoiselle trouva le moment de me prier de passer le matin de bonne heure chez elle, ayant à me parler de choses importantes. On devine que je n'eus garde de manquer à l'invitation. J'étais auprès d'elle avant 8 heures. Je la trouvais très triste, et elle me dit qu'elle était en désespoir, que la Populinière pressait la conclusion du mariage et que sa mère la persécutait. Elle m'a signifié qu'il faut que je signe le contrat et m'a annoncé un tailleur qui doit venir me prendre mesure de corset et de robe. Oh, je ne saurais y consentir, car, ajouta-t-elle avec beaucoup de raison, il est impossible qu'un tailleur ne s'aperçoive pas de mon état. Oh, je suis décidé à me donner la mort plutôt que de me marier avant d'être délivré ou que de me confier à ma mère. La mort, lui dis-je, est un expédient dont il est toujours temps d'user et auquel il ne faut avoir recours que lorsque tous les moyens de salut ont été mis en usage sans succès. Il me semble que vous pouvez facilement vous débarrasser de la Populinière. Confiez-lui votre état. Il est homme d'honneur. Il prendra son parti sans vous compromettre, car il est assez intéressé à garder le secret. Mais alors, serais-je bien avancé, ma mère ? Votre mère, oh ! Je me charge de lui faire entendre raison. Oh, mon ami, que vous la connaissez peu. L'honneur la forcerait à me faire disparaître, mais avant, elle me ferait souffrir des maux auxquels la mort la plus cruelle est préférable. Mais d'où vient que vous ne me parlez plus de la ROF ? Est-ce qu'une simple plaisanterie ? Oh, ce serait cruel. Non, non, je crois au contraire que c'est un moyen infaillible, quoique je n'ai jamais été témoin de ses effets merveilleux, mais à quoi bon vous en parler ? Vous avez dû deviner la délicatesse qui m'a forcé au silence. Confiez votre état à votre amant. Il est à Venise. Écrivez-lui, et je me charge de lui faire parvenir le message en 5 ou 6 jours par un homme sûr. S'il n'est pas riche, je vous donnerai tout l'argent nécessaire pour qu'il puisse ne mettre aucun retard à venir, vous rendre l'honneur et la vie en vous administrant la ROF. Le projet est beau et l'offre généreuse de votre part, mais la chose n'est pas exécutable. Vous n'en douteriez pas si vous étiez mieux instruit de tout ce qui tient à l'affaire. Ne pensons pas à lui, mon ami, mais supposons que je puisse me décider à recevoir la rof d'un autre que lui. Dites-moi comment je le pourrais. Quand bien même mon amant serait caché à Paris, serait-il possible qu'il passât avec moi 8 jours en toute liberté, comme il le faudrait sans doute pour m'administrer le spécifique? Et puis, quand bien même cela se pourrait, comment m'administrer la dose 5 ou 6 fois par jour pendant toute une semaine? Vous voyez bien qu'il n'est pas possible de penser à ce remède. Ainsi, pour sauver votre honneur, ma chère demoiselle, vous vous détermineriez donc à vous donner à un autre? Oui, certainement, si j'étais sûr que personne n'en sût rien. Mais où est cet homme? Le croyez-vous facile à trouver? Et dans ce cas même, pensez-vous que je puisse me résoudre à l'aller chercher? Je ne savais comment interpréter ces paroles, car mademoiselle connaissait mon amour pour elle, et il me paraissait naturel qu'elle ne songeât pas à l'embarras d'aller chercher au loin ce qu'elle pouvait trouver si près d'elle. Je penchais croire qu'elle voulait que je la priasse de me choisir pour l'administrateur du remède, soit pour épargner à sa pudeur la honte d'une offre difficile à faire, soit pour se donner le mérite de céder à mon amour et m'obliger par là à plus de reconnaissance. Mais je pouvais me tromper, je ne voulais pas m'exposer à l'affront d'un refus humiliant. D'un autre côté, j'avais peine à concevoir qu'elle voulût m'insulter. Ne sachant à quel saint me vouer et voulant la forcer à s'expliquer, je me levai en poussant un profond soupir, et prenant mon chapeau, je me disposais à sortir en m'écriant « Cruelle mademoiselle, je suis plus malheureux que vous !» Se dressant alors sur son lit, elle me supplia de rester en me demandant les larmes aux yeux comment je pourrais me croire plus malheureux qu'elle. Affectant un air piqué mais sentimental, je lui répondis qu'elle m'avait trop fait connaître le mépris qu'elle avait pour moi, puisque dans la cruelle nécessité où elle se trouvait, elle me préférait un inconnu qu'assurément je ne lui procurerais pas. « Mais que vous êtes cruel, que vous êtes injuste !» me dit-elle en pleurant. « Je vois bien à mon tour que vous n'avez point d'amour pour moi, puisque vous voulez que ma cruelle situation vous serve de triomphe. Je ne puis regarder votre procédé que comme une vengeance peu digne d'un homme généreux. » Ses larmes m'attendrirent, et je me précipitai à genoux. « Mais puisque vous savez que je vous adore, chère demoiselle, comment voulez-vous, lui dis-je, me supposer des projets de vengeance et me croire insensible, quand vous me dites clairement qu'en l'absence de votre amant, vous ne sauriez sur qui jeter les yeux pour vous tirer d'affaire? Mais dites-moi si, après mes refus, je pouvais, dès qu'on commence à s'adresser à vous, et ne devrais-je pas craindre que vous refuseriez à la nécessité ce que votre amour n'avait pu obtenir? Vous pensez donc qu'un homme qui aime avec passion peut cesser d'aimer à cause d'un refus qui peut n'avoir que la vertu pour motif? Laissez-moi vous ouvrir mon cœur. J'ai pu croire, en effet, que vous ne m'aimiez pas, mais je crois être certain maintenant que je me suis trompé et que vous m'auriez rendu heureux par sentiment, indépendamment de la nécessité où vous êtes. Je dirais encore que vous êtes fâché sans doute que j'ai pu me figurer le contraire. Non, vous êtes, mon cher ami, le fidèle interprète de mes sentiments. Mais reste à savoir comment nous pourrons nous trouver ensemble avec toute la liberté dont nous avons besoin. Soyez sans inquiétude. Sûr de votre contentement, je ne serai pas longtemps à trouver un expédient convenable. En attendant, je vais composer la rof. J'avais décidé que, si jamais je venais à bout de persuader ma belle demoiselle à faire usage de mon spécifique, je n'emploierai que du miel. Ainsi, la composition de la robe dont je voulais faire usage n'était pas fort embarrassante. Mais si, de mon côté, j'étais tout à fait à mon aise, de l'autre, j'étais dans une espèce de labyrinthe dont je ne savais trop comment sortir. Je devais passer sans interruption plusieurs nuits en travaux continuels. Je craignais de m'être engagé au-delà de mes forces. Il n'était pas possible d'en rien abattre sans m'exposer à compromettre non le succès de la ROF, mais bien la bonne fortune dont j'avais si laborieusement préparé les voies. De plus, sa sœur cadette couchant dans la même chambre et assez près d'elle, ce n'était pas là que l'opération pouvait avoir lieu. Il était impossible que je puisse la conduire 8 nuits de suite dans un hôtel garni. Le hasard, divinité assez ordinairement propice aux intrigues amoureuses, vint à mon secours. Obligé de monter au 4e étage, je rencontre le marmiton qui, devinant mon affaire, me pria de ne pas aller plus loin parce que la place était prise. « Mais, lui dis-je, tu en sors. »«
C'est vrai, monsieur, mais je n'ai fait qu'entrer et sortir. »
« Eh bien, j'attendrai que la place soit évacuée. »«
Oh, monsieur, de grâce, n'attendez pas. »«
Je te devine, coquin. Je ne dirai rien, mais je veux la voir. »«
Elle ne sortira pas, car elle vous a entendu et elle s'est enfermée. »«
Elle me connaît donc ?»«
Oui, et vous la connaissez aussi. »
« C'est bon, allez, va-t'en et sois tranquille pour toi et pour elle. » Le marmiton partit, et je conçus de suite que je pourrais tirer parti de cette rencontre. Je monte, et à travers une fente, j'aperçois Madeleine, la femme de chambre de mademoiselle. Je la rassurai en lui promettant le secret. Elle ouvrit, et lui ayant mis un louis dans la main, elle s'enfuit un peu confuse. Un instant après, je descendis, et le marmiton qui m'attendait sur le palier me pria d'exiger que Madeleine lui donnât la moitié du louis. « Je t'en promets un entier, lui dis-je, si tu consens à me tout avouer. » Le drôle ne demandait pas mieux. Il me conta ses amours et me dit qu'il passait toutes les nuits avec elle dans le galetas, mais que depuis 3 jours, ils avaient été sevrés de leur plaisir, parce que madame en avait ôté la clé après y avoir enfermé du gibier. Je m'y fis conduire et je vis par le trou de la serrure que l'on pouvait aisément y placer un matelas. Je donnai un louis au marmiton et je partis pour aller mûrir mon plan. Je pensais que mademoiselle, d'accord avec Madeleine, pourrait facilement venir passer la nuit dans ce galetas. Je me munis d'un rossignol et de plusieurs fausses clés. Je mis dans une boîte en fer blanc plusieurs doses du prétendu harof, c'est-à-dire du miel amalgamé avec de la corne de cerf pour donner de la consistance, et le lendemain matin, je me rendis à l'hôtel de Bretagne où j'allais de suite faire l'essai de mon rossignol. Je n'en eus pas besoin, car la première fausse clé me suffit pour ouvrir une serrure dérabrée. Fier de ma découverte et de mes succès, je descends chez mademoiselle, et en peu de mots, je la mets au fait de tout.
Mais mon ami, je ne puis sortir de ma chambre qu'en traversant le cabinet où couche Madeleine.
Eh bien, mon cœur, il faut mettre cette fille dans nos intérêts.
Lui confier mon secret?
Et tout juste.
Je n'oserai jamais.
Je m'en charge. La clé d'or ouvre toutes les portes. Elle consentit à tout, mais le marmiton m'embarrassait. Car s'il était parvenu à nous venir, il aurait pu nous nuire. Je pensais que je pourrais m'en assurer par Madeleine, ou qu'en fille d'esprit, elle saurait nous débarrasser de lui. Avant de partir, je dis à cette fille que j'avais besoin de l'entretenir de choses importantes et je lui donnai rendez-vous dans le cloître des Augustins. Elle y vint exactement
et je lui expliquais mon plan de point en point. Il n'était pas difficile à comprendre, et après m'avoir dit qu'elle aurait soin que son propre lit se trouvât à l'heure convenue dans le boudoir de nouvelle espèce, elle ajouta que pour être à l'abri de toute inquiétude, il était indispensable d'avoir le marmiton dans nos intérêts. « C'est un garçon intelligent, » dit Madeleine, « et je crois pouvoir répondre de sa fidélité. Laissez-moi le soin d'arranger cette affaire. » Je lui remis la clé 6 louis en lui disant d'informer sa maîtresse de tout ce que nous venions d'arrêter, de se concerter avec elle et de tenir le galetas prêt à nous recevoir. Elle partit joyeuse. Une femme de chambre qui a un amoureux n'est jamais si heureuse que lorsqu'elle peut mettre sa maîtresse dans la nécessité de protéger ses amours. Le lendemain matin, le marmiton vint me trouver à la petite Pologne. Je m'y attendais. Avant de lui laisser le temps de parler, je lui dis de se mettre en garde contre la curiosité de mes domestiques et de ne point venir chez moi sans nécessité. Il me promit d'être prudent et m'assura de son dévouement. Il me donna la clé du galetas en me disant qu'il s'en était procuré une autre. J'admirai et louai sa prévoyance, et lui en fait cadeau de 10 6 louis, je vis qu'il faisait plus d'effet que les plus belles paroles. Le lendemain, dans la matinée, je ne vis mademoiselle qu'un instant pour la prévenir qu'à 10 heures du soir, elle me trouverait au rendez-vous. Je m'y rendis d'assez bonne heure sans être vu de personne. J'étais en redingote, ayant dans mes poches une boîte d'Arof, un excellent briquet et une bougie. J'y trouvais un bon matelas, des oreillers, une bonne couverture piquée, meuble fort utile, car les nuits étaient froides et il s'agissait de pouvoir dormir dans les intervalles de l'opération. À 11 heures, un petit bruit me causa une palpitation qui est toujours de bon augure. Je sors, et à tâtons, je vais au devant de mademoiselle, que je rassure par un tendre baiser. Introduite dans le gîte, je barricade la porte, et j'ai soin de masquer le trou de la serrure pour, à tout événement, éviter les surprises et tromper les curieux. Ayant ensuite allumé ma bougie, mademoiselle témoigna de l'inquiétude. « La lumière pourra nous faire découvrir si quelqu'un est appelé au 4e, » me dit-elle. « Outre que la chose n'est pas probable, » lui dis-je, « il faut bien que nous encourions le risque, car sans lumière, comment me coifferiez-vous de la robe ?»« Eh bien, » répliqua-t-elle, « nous éteindrons tout de suite après. » Sans nous amuser à ces préliminaires, si doux en amour quand on est libre, nous nous déshabillâmes et nous mîmes sérieusement à notre rôle, que nous jouâmes avec perfection. Nous avions l'air, moi, d'un élève de 5 hommes qui va faire une opération, elle d'une malade qui s'y résigne, avec cette différence pourtant que c'était la malade qui disposait l'appareil. Quand le sacrificateur fut armé de toutes pièces, c'est-à-dire quand les mains blanches de mon anglaise eurent placé la robe comme une calotte de vicaire, elle se plaça dans la position la plus convenable, aidant de ses deux mains l'ouverture de l'orifice par où le spécifique devait être porté à l'endroit où devait se faire l'amalgamation avec la semence vitale. Ce qu'il y avait de vraiment risible dans notre fête, pour un tiers qui aurait pu nous voir, c'est que nous étions l'un et l'autre d'un sérieux doctoral. Quand l'introduction fut complète, la timide mademoiselle éteignit la bougie. Mais à quelques minutes de là, il fallut bien qu'elle consentît que je la rallumasse. J'avais opéré en maître, mais avec trop de promptitude, sorte que mon Agnès, n'ayant pas eu le temps de vaincre son émoi, était resté en défaut. Je lui dis complaisamment que j'étais charmé de recommencer la besogne, Et le ton avec lequel je débitais le compliment nous força à partir d'un éclat de rire. Je fus moins prompt à la seconde opération que je ne l'avais été à la première, et pour le coup, mademoiselle fut tout à l'aise pour bien opérer de son côté. La pudeur avait fait place à la confiance, et dans l'inspection qu'elle fit de la rofe restée en place, elle me fit remarquer du bout de son joli doigt la portion très distincte de sa coopération. Ensuite, faisant observer d'un air tendre et satisfait que pour le succès que nous espérions, nous avions encore du chemin à faire, elle m'invita à prendre un peu de repos. « Vous voyez, lui dis-je, que je n'en ai pas besoin, et je pense que nous ferons bien de recommencer. » Elle trouva sans doute la raison convaincante, car sans y répliquer, elle se remit à l'œuvre. Ensuite, nous nous livrâmes à un assez long sommeil. À mon réveil, aussi dispos qu'auparavant, je sollicitai une nouvelle opération, et après l'avoir obtenue et parfaitement achevée, une réflexion économique de ma prévoyante mademoiselle me détermina à me ménager, car nous devions nous conserver pour les nuits suivantes. Ainsi, vers les 4 heures du matin, elle me quitta à petit bruit pour rentrer dans sa chambre, et moi, au point du jour, je sortis de l'hôtel sous l'égide de mon mercure de cuisine, qui me fit évader par une porte dérobée que je ne connaissais pas. Vers midi, ayant pris un bain aromatique, j'allais faire ma cour à mademoiselle XV, comme de coutume. Je la trouvai assise sur son lit dans un déshabillé élégant et le sourire de bonheur sur les lèvres. Elle me parla de sa reconnaissance, me remercia avec tant de feu et à tant de reprises que, me croyant avec raison son débiteur, je commençai à m'impatienter tout de bon. « Est-il possible, chère demoiselle, lui dis-je, que vous ne conceviez pas que vos remerciements m'avilissent. Ils me prouvent que vous n'aimez pas, ou que si vous m'aimez, vous ne me supposez pas un amour égal au vôtre. » Nous finîmes par nous attendrir, et nous allions sceller notre amour réciproque sans le secours de la rof, quand la prudence vint à notre aide. Nous n'étions pas en sûreté et nous avions du temps devant nous. Nous nous contentâmes des plus tendres embrassements en attendant la nuit. Ma position était singulière, car, quoique j'aimasse beaucoup cette intéressante personne, je ne me faisais pas le moindre reproche de l'avoir trompée, d'autant plus que les suites ne tiraient pas à conséquence, puisque la place était occupée. C'était une petite vengeance d'amour-propre qui faisait que je m'applaudissais d'une supercherie qui me procurait de véritables jouissances. Elle me disait qu'elle se pouvait humilier de s'être refusée à mes désirs quand elle pouvait se rendre, en me donnant une preuve véritable de son amour pour moi, tandis que maintenant elle sentait avec amertume que je pouvais nourrir quelques doutes sur ses véritables sentiments. Je fis de mon mieux pour la rassurer, et au fait, ce que j'éprouvais pour elle aurait rendu le doute oiseux, puisque j'avais atteint mon but aussi complètement que je pouvais le désirer. Mais j'obtins un succès dont je me félicite encore aujourd'hui, c'est que pendant mes travaux nocturnes, travaux fort inutiles pour le but qu'elle se proposait, j'eus le bonheur de lui inspirer de la résignation et de la confiance, au point que, de son propre mouvement, elle me promit de ne plus se livrer au désespoir, et quoi qu'il pût arriver, de s'abandonner à moi et de ne se diriger que par mes conseils. Pendant nos colloques nocturnes, elle me répéta souvent qu'elle se sentait heureuse et qu'elle le serait encore quand bien même la rof ne produirait aucun effet. Ce n'est pas qu'il y eût la plus grande confiance, car ne cessa l'application de l'innocent ingrédient qu'aux derniers assauts que nous nous livrâmes avec une ardeur de néophyte, et comme si nous avions voulu épuiser dans ces 12 ébats la coupe entière de la volupté. Mon cher ami, me dit-elle au moment de notre dernière séparation, tout ce que nous avons fait me semble beaucoup plus propre à créer qu'à détruire. Et si la porte n'était pas hermétiquement fermée, nous aurions sans doute fourni bonne compagnie aux petits solitaires. Un docteur de Sorbonne n'aurait pas mieux raisonné. À 3 ou 4 jours de là, je la retrouvais pensive mais calme. Elle me dit qu'elle avait perdu toute espérance de se délivrer du fardeau avant le terme, et que cependant elle continuait à être persécutée par sa mère, qu'en très peu de jours elle n'aurait plus qu'à opter entre une déclaration de son état et la signature du contrat, mais que, ne pouvant se résoudre à prendre aucun des deux partis, elle était décidée à s'évader, et elle me chargea de lui en assurer les moyens. J'étais décidé à la servir. Ma résolution était prise à cet effet. Mais je voulais sauver les apparences, car j'aurais pu avoir une mauvaise affaire sur les bras si l'on avait acquis la certitude que je l'avais enlevée ou que je lui avais facilité les moyens de sortir du royaume. Du reste, nous n'avions jamais songé, ni l'un ni l'autre, à unir nos destinées par des liens indissolubles. Je la quittais, l'esprit fort occupé, et je me dirigeais vers les Tuileries, où l'on donna un concert spirituel. C'était un motet composé par Mondonville, et les paroles étaient de l'abbé de Voiselon, auquel j'avais donné le motif, les Israélites sur la montagne d'Horeb. Ce morceau, écrit en vers libre, était une nouveauté qui faisait du bruit. En descendant de voiture, j'aperçus Madame Burumain qui descendait seule de la sienne. Je courus à elle et je fus accueilli en bonne connaissance. Ben, « Je me félicite, me dit-elle, de vous trouver ici. C'est presque une bonne fortune. Je vais voir cette nouveauté, j'ai 2 places réservées. Vous me ferez plaisir d'en accepter une ?» Sentant tout le prix d'une offre aussi honorable, quoique j'eusse mon billet d'entrée dans ma poche, je lui garde de refuser, et lui offrant respectueusement mon bras, nous allâmes occuper 2 des meilleures places. On ne jase pas à Paris quand on va entendre de la musique sacrée, et surtout du nouveau. Madame de Rumain ne put donc point juger de l'état de mon esprit par mon silence obligatoire pendant le concert, mais elle le devina ma physionomie dès que tout fut fini, car j'avais l'air abattu et préoccupé, ce qui n'était pas mon naturel. « Monsieur Casanova, me dit-elle, obligez-moi de passer 1 heure chez moi. J'ai 2 ou 3 questions kabbalistiques à vous soumettre. Vous me les résoudrez, car elles me tiennent à cœur. Mais il faut faire vite, parce que je suis engagé à souper en ville. » On pense bien que je ne me fis point prier, et dès que je fus rendu chez elle, mes réponses furent prêtes en moins d'une demi-heure. Quand j'eus fini, « Qu'avez-vous, monsieur Casanova ?» me dit cette aimable dame du ton de la plus parfaite bienveillance. « Vous n'êtes point dans votre assiette ordinaire. Et, si je ne me trompe, vous êtes dans l'attente de quelque grand malheur. Ne seriez-vous pas par hasard dans le cas de devoir prendre quelque forte détermination ?»« Oh, je ne suis pas curieuse, mais si je puis vous être utile à la cour, disposez de mon crédit et comptez sur moi. » J'irai, s'il le faut, à Versailles demain matin, si l'affaire est pressante. Je suis bienvenu de tous les ministres. Mettez-moi au courant de vos peines. Mon ami, si je puis les adoucir, au moins je les partagerai. Ne doutez pas de ma discrétion. Cette allocution me parut une voix du ciel, une excitation de mon bon génie à m'ouvrir entièrement à cette dame qui avait presque lu dans ma pensée et qui m'expliquait en termes non équivoques tout l'intérêt qu'elle prenait à mon bonheur. Après l'avoir regardé quelques instants sans proférer une parole, mais avec un air qui lui exprimait toute ma reconnaissance, « Oui, madame, lui dis-je, je suis dans une crise violente, à la veille peut-être de me perdre. Mais votre bienveillance vient de me rendre le calme en me faisant concevoir quelle espérance. Vous allez connaître ma situation. Je vais vous rendre dépositaire d'un secret que l'honneur rend inviolable. Mais je ne saurais douter de votre discrétion, non plus que de votre bonté. Si vous daignez ensuite m'honorer d'un conseil, je vous promets de le suivre, je jure de ne jamais dire de qui je le tiens. Après cet exorde qui me captiva toute son attention, je lui contai en détail toute l'affaire. Je ne lui cachai ni le nom de la demoiselle, ni aucune des circonstances qui m'obligeaient à veiller sur son sort. Je me tus cependant sur la rof, et sur la manière dont je l'avais administrée, la chose me paraissant trop comique pour être mêlée dans ce drama sérieux. Mais je lui avouai que je lui avais procuré des remèdes dans l'espoir de la délivrer de son fardeau. Après cette importante confidence, je me tus. Et Madame Durumain demeura comme absorbée pendant près d'un quart d'heure. Enfin, elle se leva, me disant « Je suis attendu chez Madame de la Marque. Il faut absolument que je m'y rende, car je dois y trouver l'évêque de Montrouge à qui j'ai besoin de parler. Mais j'espère que je pourrai vous être utile. Revenez, je vous prie, après-demain, à 8 heures. Vous me trouverez seul et surtout ne faites aucune démarche avant de m'avoir vu. Adieu. » Je la quittai, plein d'espérance et bien déterminé à me diriger dans cette affaire épineuse par les seuls conseils qu'elle me donnerait. L'évêque de Montrouge, auquel elle devait parler pour une affaire importante qui m'était bien connue, était l'abbé de Voisenon, que l'on appelait ainsi parce qu'il y allait souvent. Montrouge est une terre près de Paris qui appartenait au duc de la Vallière. Je vis ma chère demoiselle le lendemain. Je me contentai de lui dire que dans une couple de jours, j'espérais pouvoir lui donner de bonnes nouvelles. Je fus content d'elle car elle se montra résignée et pleine de confiance. Le surlendemain, je ne manquai pas de me retrouver à 8 heures chez ma noble protectrice. Le Suisse me dit en souriant que je trouverais le médecin chez madame, ce qui ne m'empêcha pas de monter. Dès que je parus, il partit. C'était Terence Fand, que toutes les jolies femmes de Paris s'arrachaient, et que le malheureux Poincinet mit en scène dans Le Cercle, petite pièce en un acte d'un mérite très médiocre, et qui cependant eut un succès de vogue. « Mon cher affligé, me dit Madame Durumain dès que nous fûmes seuls, j'ai fait votre affaire, et ce sera maintenant à vous à me garder un secret inviolable. » Après avoir mûrement réfléchi au cas de conscience que vous m'avez confié, j'ai été au couvent de C, dont l'abbesse est mon amie. Je lui ai confié le secret, bien sûr, qu'elle est incapable d'en abuser. Et nous sommes convaincus qu'elle recevra la demoiselle dans son couvent et qu'elle lui donnera une bonne sœur converse pour la soigner dans ses couches. Vous ne nierez pas, ajouta-t-elle en souriant, que les cloîtres ne soient bons à quelque chose. Votre protégé s'y rendra seul avec une lettre que je vous donnerai pour l'abbesse et qu'elle lui fera remettre de suite par la tourière. Elle sera introduite et placée dans une chambre convenable. Elle ne recevra jamais de visite ni d'autres lettres que celles qui passeront par mes mains. L'abbesse m'enverra ses réponses que je vous remettrai en main propre. Vous sentez qu'elle ne doit conserver de correspondance qu'avec vous seul. Et vous n'aurez de ces nouvelles que par mon canal. Vous en agirez de même, observant de laisser toujours l'adresse en blanc. J'ai dû dire à l'abbesse le nom de votre demoiselle, mais je ne lui ai point dit le vôtre, car elle ne me l'a point demandé. Informez de tout ceci votre jeune demoiselle, et lorsqu'elle sera prête, venez me le dire et je vous donnerai ma lettre. Dites-lui de ne se munir que du strict nécessaire, et surtout de ne prendre ni diamants ni bijoux de prix. Vous pouvez lui assurer que l'abbesse la verra de temps en temps, qu'elle lui donnera des marques d'amitié, des livres décents, en un mot, qu'elle sera soignée et traitée avec distinction. Dites-lui aussi de ne faire aucune espèce de confidence à la sœur converse qui la servira. Car, oh, quoique honnête et bonne, elle est religieuse et le secret pourrait être mal gardé. Après sa délivrance, elle ira à confesse, fera ses Pâques et l'abbesse lui délivrera un certificat en bonne forme, avec lequel elle n'aura aucune difficulté de se représenter à sa mère, qui se croira trop heureuse de la revoir. Et alors il ne sera plus question de mariage, d'autant plus qu'elle doit l'alléguer comme motif de sa retraite. Après m'être évertué en remerciement et avoir fait l'éloge de sa prudence, je la priai de me donner la lettre sur le champ, puisqu'il n'y avait pas de temps à perdre. Elle se mit obligeamment à mon bureau, et voici ce qu'elle écrivit. « Ma chère abbesse, la demoiselle qui vous présentera cette lettre est celle dont j'ai eu le plaisir de vous entretenir. Elle désire passer 3 ou 4 mois sous votre protection, dans votre couvent, pour se remettre en état de tranquillité, faire ses dévotions et être sûre que lorsqu'elle retournera chez sa mère, il ne sera plus question d'un mariage auquel elle ne peut se résoudre et qui est la cause du parti qu'elle prend de s'éloigner pour quelque temps de sa famille. » Après me l'avoir lu, elle me l'a remis décacheté pour que mademoiselle pût la lire. L'abbesse était une princesse et par conséquent, son monastère était à l'abri de tout soupçon. En recevant la lettre des mains de Madame Durhumain, je me sentis si plein de reconnaissance que je me précipitai à ses genoux. Cette généreuse dame me fut encore fort utile, comme je le dirai plus tard. En sortant de chez Madame Durhumain, je me rendis directement à l'hôtel de Bretagne, où mademoiselle n'eut que le temps de me dire qu'elle était occupée pour toute la journée, mais que le soir, à 11 heures, elle se rendrait au Galta, où nous aurions tout le temps de nous parler. Je fus ravi de cette annonce, car je prévoyais que ce serait la fin d'un beau rêve et que je n'aurais plus l'occasion de me retrouver seul avec elle. Avant de sortir de l'hôtel, je dis un mot à Madeleine, qui me chargea d'avertir notre Mercure de tenir tout dans le meilleur ordre. Exact au rendez-vous, je n'attendis pas longtemps ma belle. Après avoir fait lire la lettre de Madame Durhumain, dont je lui tus le nom sans qu'elle s'en formalisât, j'éteignis la bougie, et puis, sans qu'il fût question de la rof, nous nous livrâmes au plaisir de nous prouver réciproquement que nous nous aimions. Le matin, lorsqu'il fut temps de nous séparer, je lui donnai toutes les instructions verbales que j'avais reçues, puis nous convînmes qu'elle sortirait de l'hôtel à 8 heures, avec les effets qui lui étaient nécessaires, qu'elle prendrait un fiacre jusqu'à la place Maubert, où elle le renverrait, que là elle en prendrait un autre jusqu'à la porte Saint-Antoine, et enfin plus loin un troisième, avec lequel elle se rendrait directement au couvent indiqué. Je la priai de ne pas oublier de brûler toutes les lettres qu'elle avait reçues de moi et de m'écrire du couvent aussi souvent qu'il lui serait possible, de cacheter ses lettres mais de laisser l'adresse en blanc. Elle me promit de suivre ponctuellement mes instructions, puis je la forçai à recevoir un rouleau de 200 louis qui pouvait lui devenir nécessaire, quoique nous ne prévissions pas comment. Elle pleurait, plus peinée du cruel embarras dans lequel elle me laissait que de la situation fort difficile. Mais je la rassurai en lui disant que j'avais beaucoup d'argent et des protections puissantes. « Je partirai, me dit-elle, après-demain, à l'heure convenue. » Et là-dessus, lui ayant promis de venir le jour après chez sa mère comme si je ne savais rien, et de lui écrire tout ce qu'on dirait. Nous nous embrassâmes tendrement, et je partis. Mademoiselle X s'éveilla et accoucha au couvent d'un beau garçon. Elle quitta bientôt Paris avec sa mère et devint dans la suite une grande dame à Venise.